Message pour la petite voix qui est au bout du rouleau. Et voilà. Eh ben, on vous aime. Voilà. C'est pas interdit de dire on vous aime. Ben voilà. On vous aime. Au revoir.
Bonjour. Bien dites donc, vous avez fait une émission sur Choron formidable, hein. Oh, je me suis régalée, hein. Depuis un petit moment, l'agité du boucal nous casse les pieds, il nous fout le moral à zéro. Mais alors là, c'est bien parti, hein. Écoutez, je vais essayer d'aller voir le film, bien que j'habite un petit patelin perdu, mais on va essayer, hein. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une bonne année à la Choron. Au revoir.
Bonjour Monsieur Mermet. En cette période de très grand froid, où particuliers et associations se mobilisent pour venir en aide aux SDF, la police municipale de Nice est venue lundi confisquer les quelques couvertures de ceux de la place de l'Île de Beauté, les laissant ainsi sans la moindre protection contre le froid de la nuit à venir. Cette police les dépossède d'ailleurs régulièrement des dons que leur font des gens du quartier, émus par tant de détresse humaine. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, Monsieur Mermet, à vous et à toute votre équipe. Philippe de Nice.
Bonjour, Sylvie du repère 90. Voilà donc le repère du territoire de Belfort qui se réunit habituellement chaque deuxième samedi du mois au bar du boulevard. Et bien là, il va au cinéma des quais parce qu'à la séance de 14h15, il y a un film de Chomsky et compagnie, donc de Daniel Mermet, Olivier Hazan, avec le reportage radio de Guy Ventil. Eh bien, il y a donc cette projection et un débat, donc normalement en présence d'Olivier Hazan. Et puis, ben, on espère qu'il y aura du monde, parce que à l'heure où l'impuissance et la résignation l'emportent, le travail de Chomsky, c'est quand même un antidote important, hein. Donc, ben, ma foi, je vous souhaite à tous encore une bonne et heureuse année, et puis tiens bon la rampe. Ciao.
Voilà, bien sûr, on tient bon la rampe. Pas de problème, merci à tous pour ces messages, chers auditeurs, auditrices. Oui, le Choron, bien sûr, c'est à voir. Vous pouvez très facilement, en tapotant un petit peu sur votre ordinateur, voir où ça passe près de chez vous. Quant à Chomsky et compagnie, c'est très facile, vous allez sur labas.org et vous trouvez la liste des salles qui projettent ce film, dont ce soir à Limoges, mais on m'a dit que c'était complet. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le thème qui nous hante tous actuellement, c'est-à-dire le Proche-Orient, c'est-à-dire ce qui se passe à Gaza. J'espère que vous n'avez pas manqué ce matin la phrase absolument historique d'Avi Pasner, le porte-parole du gouvernement israélien, disant à Nicolas Demorand, il y a eu quelques pépins. Eh bien, on va évoquer ces pépins avec Stéphane Hessel, que vous connaissez, bien sûr, et qui va donner son point de vue et qui donne un peu partout son point de vue sur ce conflit, disons, appelons ça un conflit. C'est vraiment faire un euphémisme que de parler des choses ainsi, mais c'est un point de vue à la fois compétent et très courageux que celui de Stéphane Hessel. Et puis auparavant, alors c'est un scoop fabuleux dont nous sommes très très fiers, en avant-première, là-bas, si j'y suis, a réussi à obtenir le prochain reportage que Bernard-Henri Lévy, notre Bernard-Henri Lévy, va publier dans Le Monde. Vous savez que régulièrement, dès qu'il se passe quelque chose d'important sur cette planète, Bernard-Henri Lévy arrive, bien sûr. Et bien comme là, il se passe quelque chose d'important, il n'a pas manqué d'y aller et le reportage va être publié dans quelques temps, très rapidement maintenant, mais nous avons réussi à en avoir une copie, hein, et vous allez avoir une idée de la teneur de ce reportage formidable, évidemment, comme tous les précédents. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Canada Annecy. Je ne sais pas s'il y a des journalistes de la télévision qui nous écoutent là, mais ce serait pour leur passer un message, alors Daniel, je ne sais pas si tu en connais, pour passer le mot, mais quand ils mettent une carte d'Israël et de la Palestine pour illustrer les nombreux reportages fort intéressants qu'ils nous font aujourd'hui télévisés, ce serait bien qu'ils mettent une carte réelle, parce que la Cisjordanie, elle est constamment représentée comme un bloc... un joli bloc unique, alors qu'en réalité c'est un territoire qui est morcelé, avec des tas de petits morceaux qui ne communiquent pas forcément entre eux. Allez, au revoir et bon courage.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors ce soir, jeudi, le repère de Bourg-en-Bresse au bar-restaurant Le Petit Milieu, rue du Pelot, à Bourg-en-Bresse, à 20h. Donc la rue du Pelot, c'est entre le pont de Lyon et le pont du Mail, derrière la gare. Alors merci aux auditeurs modestes et géniaux de la région qui nous rejoindront pour la première fois. Nous dresserons un petit bilan de notre première année d'existence et envisagerons nos discussions, interventions et actions pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, merci, à bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs modestes et géniaux. Un petit message pour rappeler au puits de moi que ce vendredi, comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, à partir de 18h30, se tiendra le repère de là-bas si j'y suis, à Courpierre, chez Zico, avenue de la Gare. En ce début d'année, on a de quoi s'en dire. Voilà, bon courage à tous et à bientôt. Séverine de Courpierre.
Vous trouvez le bocage ? Un bon entartage !
Voilà, Daniel, bonjour à toute l'équipe. C'était Hugo en direct de l'ancien palais de justice et de la gendarmerie de Nantes. En direct de la garde à vue des 6 entarteurs nantais dangereux terroristes. Voilà, portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Youhou, Bernard, youhou, Bernard-Henri, youhou, c'est l'heure, il faut aller à Gaza, youhou, Henri, mon petit Bernard, vas-y, on t'attend, vas-y à Gaza. C'était Romuald de Chanon.
Nous sommes le 1er janvier et mon avion descend sur Tel Aviv. Comment ne pas être sensible à cette incroyable coïncidence? Car c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un événement historique pour la résistance française. Cela fait 67 ans, jour pour jour, que Jean Moulin, représentant du général de Gaulle, fut parachuté dans les Alpilles. Et je ne peux pas ne pas y penser, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement. Mon jet privé remplace son parachute, mais au fond... je reprends humblement le combat du grand homme et je sais que de là où il m'observe, Jean Moulin ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Ce n'est jamais sans un frisson d'émotion que je pousse la porte de cette suite que j'aime tant à l'hôtel King David de Jérusalem. Mais dès mon arrivée, oui, dès les premiers contacts avec les vieux amis que je n'avais depuis 1967 jamais vu si tendu, si anxieux. J'avais 19 ans à l'époque. Je comprends que la situation est grave. J'ai connu depuis 40 ans bien des ministres de la Défense d'Israël, de Moshe Dayan à Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, tous sollicitent mes amicales analyses et mes francs conseils. Merci d'être venus, disent l'un d'entre eux dans un sourire triste. Nous passons la nuit à discuter, ils posent beaucoup de questions. J'avoue rougir un peu lorsque mon ami Amos Oz me révèle que dans une Knesset où même les plus clairvoyants courbent la tête, les yeux perdus dans le vide devant la complexité de la situation, les parlementaires font circuler mes livres pour, m'explique-t-il, tenter de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais le temps presse et j'ai hâte de me rendre sur le théâtre des opérations à Gaza. Je dors à peine et c'est le départ. Nous roulons toute la journée et, au crépuscule, nous rattrapons une colonne de blindés israéliens. Le capitaine arrête notre véhicule. L'air grave, il me convoque dans une tente plantée sur le bord de la route. Que peut-il bien se passer ? La piste est-elle à ce point dangereuse qu'il préfère m'arrêter plutôt que de me voir continuer mon chemin au péril de ma vie pour la défense de la liberté et des droits de l'homme ? Sommes-nous sur le point d'être attaqués ? Toutes ces questions m'assaillent, ma gorge se serre. Je repense à cette chambre du Ritz où je me réfugie pour écrire après de longues semaines passées à tutoyer la mort dans des pays en guerre. Pour écrire, pour dire au monde la vérité dont j'ai été le témoin en buvant du thé Earl Grey. Je pense à ce breuvage avec une pointe de nostalgie quand mon hôte se penche vers moi pour m'en proposer une tasse en bafouillant quelques mots d'un français maladroit. « Vous boire Earl Grey, n'est-ce pas, monsieur Lévy ?» Il m'a reconnu. Je m'aperçois vite que s'il m'a fait venir jusqu'ici, c'est pour me parler d'une affaire qui le passionne, qui n'a rien à voir avec cette guerre, qui n'est autre que le kidnapping, la captivité, la décapitation de Daniel Pearl, que j'ai raconté dans un livre intitulé « Qui a tué Daniel Pearl ?» en vente dans toutes les bonnes librairies, livre qu'il connaît par cœur et dont il me dit qu'il le hante. Nous passons la nuit à discuter. Il me demande de lui raconter Massoud, Sarajevo, Gori. Au petit matin, à la faveur de l'admiration qu'il avoue timidement me vouer, j'obtiens de lui qu'il me dévoile la stratégie militaire de Tsahal, ainsi que les armements sur lesquels elle repose. C'est un véritable laboratoire de guerre où des savants soldats déploient une intelligence optimale pour, le nez collé sur leurs écrans, tentant d'intégrer jusqu'aux plus impondérables données de terrain qui leur arrivent, calculer la distance de la cible, sa vitesse de déplacement, ainsi que, last but not least, le degré de proximité d'éventuels civils dont l'évitement est, ici au moins j'en témoigne, un souci prioritaire. Et pourtant, soudain, c'est le drame. Une poignée de musulmans dépenaillés placent sournoisement devant les projectiles israéliens leur fils, âgé de moins de 5 ans. Malgré les tirs, je me précipite pour leur venir en aide, mais c'est trop tard. Leurs corps sont déchiquetés par les balles. Je m'approche de l'un des enfants qui respire encore pour lui porter secours. Il rejette mes soins et m'attrape le bras avec la force d'un homme et me fixe de ce regard que je connais trop bien, le regard de ceux qui vont mourir. Puis, last but not least, il me dit, dans un anglais impeccable, « Monsieur Lévy, il faudra leur dire. Leur dire que ce sont les enfants que l'on met en première ligne ici. Leur dire ce que nous font subir nos pères. » Puis il expire, dans mes bras. Un dernier soubresaut de son corps qui ne veut pas laisser s'échapper la vie fait tomber de sa poche un livre. Je m'aperçois qu'il s'agit d'une traduction de mon essai « La barbarie à visage humain ». Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques. Le destin cherche-t-il à me dire quelque chose ? Que l'on m'attendait ici ? Que c'est mon devoir, ma mission, de témoigner, d'alerter l'Occident sur l'horreur de la menace de ce nouveau fascisme ? Ce fascisme à visage islamiste, ce troisième fascisme, dont tout indique qu'il est à notre génération ce que furent l'autre fascisme, puis le totalitarisme communiste à celle de nos aînés.
Alors voilà, un extrait de ce reportage que vous lirez très très prochainement dans les colonnes du quotidien Le Monde, donc ce reportage de Bernard-Henri Lévy à Gaza. C'est la première partie, il y a une seconde partie, mais il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que les auditeurs de la base UJIFI, vous le savez, ont un répondeur à leur disposition au 01 56 40 37 37. Or, il y a déjà un message concernant ce que vous venez d'entendre. Écoutez.
Oui, monsieur Mermet, je suis président de l'Observatoire français de Bernard-Henri Lévy et je souhaite réagir vivement à la diffusion d'un honteux plagiat des travaux de monsieur Lévy dans votre émission. On ne saurait reprocher à qui que ce soit de s'inspirer des grands, encore faut-il savoir citer ses sources. Par exemple, lorsqu'il évoque la coïncidence de la supposée arrivée de monsieur Lévy en Israël avec le parachutage de Jean Moulin en 1942, votre reporter, dont le nom m'échappe, il faut croire que le sien est moins connu que celui de monsieur Lévy, et pour cause, eh bien votre reporter reprend presque mot à mot l'ouverture d'un article de Bernard-Henri Lévy intitulé « La guerre vue d'Israël » publié dans les colonnes
colonne du Monde le 28 juillet 2006. Pour votre gouverne, il ne me semble pas inutile de le citer. C'est aujourd'hui, lundi 17 juillet, l'anniversaire du déclenchement de la guerre d'Espagne. Cela fait 70 ans, jour pour jour, qu'eut lieu le putsch des généraux qui donna le coup d'envoi à la guerre civile, idéologique et internationale, voulue par le fascisme de l'époque. Et je ne peux pas ne pas y penser, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement tandis que j'atterris à Tel Aviv. Mais le plagiat, monsieur Mermet, ne s'arrête pas là, puisque la discussion avec un officier israélien passionné par l'affaire Perl est directement, elle aussi, recopiée du même article, où l'on peut lire, je cite, « Mais je m'aperçois vite que s'il m'a fait venir ici, c'est pour me parler d'une affaire qui le passionne, qui n'a rien à voir avec cette guerre, et qui n'est autre que le kidnapping, la captivité, la décapitation de Daniel Perl. » Il en va de même pour la description de l'armée israélienne. À nouveau, je cite l'original, celui de Monsieur Lévy donc. Un véritable laboratoire de guerre où des savants soldats déploient une intelligence optimale pour le nez collé sur leurs écrans, tentant d'intégrer jusqu'aux plus impondérables données de terrain qui leur arrivent, calculer la distance de la cible, sa vitesse de déplacement, ainsi que, last but not least, le degré de proximité d'éventuels civils dont l'évitement est, ici au moins, j'en témoigne, un souci prioritaire. Votre reporter, qui semble si fier de ses formules quand il évoque la menace islamo-fasciste, eh bien demandez-lui où il a trouvé son inspiration. Là encore, n'entend-on pas déjà dans le même article de M. Bernard-Henri Lévy évoquer, je cite, ce fascisme à visage islamiste, ce troisième fascisme dont tout indique qu'il est à notre génération ce que furent l'autre fascisme, puis le totalitarisme communiste à celle de nos aînés.
L'appareil se déconnecte.
Dans le silence glacial de l'horreur guerrière, je rejoins la colonne. Les visages sont jeunes. Ce sont des vies arrachées à des destinées plus heureuses. Il s'agit finalement d'une armée plus sympathique que martiale, plus démocratique que sûre d'elle et dominatrice. Une armée qui, ici, en tout cas, me semble aux antipodes de ces bataillons de brutes ou de terminators sans principe ni pitié qu'on a si souvent décrit dans les médias européens. La tristesse qu'on éprouve ici après le drame est moins celle du bourreau que de la victime. Mais n'est-ce pas là ce que sont vraiment tous ces jeunes gens? Des victimes. Victimes de l'aveuglement fanatique arabe dans la région. Dans la soirée du lendemain, nous parvenons à quelques kilomètres de la ville de Gaza. Nul n'y est entré. Aucun journaliste n'a pu aller plus loin, me confie un correspondant américain du New York Times osant à peine me demander un autographe. Je lui souris et je poursuis mon chemin. « N'y allez pas, c'est trop dangereux !» lance un militaire. J'entends à peine l'Américain lui répondre « Ne gaspillez pas votre souffle, celui-là. Vous ne le ferez jamais rebrousser son chemin. Mais je suis déjà loin. » Les roquettes pleuvent. C'est fou ce que ces engins, quand on les voit de près, comme moi, créent de dégâts. Et c'est fou le boucan qu'ils peuvent faire quand on ne dit plus rien et que l'on guette juste le bruit de leur trajectoire mêlé à celui du moteur de la voiture. Choc sourd et sans fumée de la roquette tombée au loin, détonation stridente, énervée quand elle passe au-dessus des têtes, vibration longue, tenue comme un point d'orgue, quand elle éclate à proximité et fait tout trembler autour de vous. Je suis déjà dans l'enceinte de la ville. L'atmosphère est macabre. Les fusées éclairantes qui, à intervalles réguliers, illuminent le ciel et sont suivies de détonations brèves. Le vide encore. L'odeur légère de putréfaction, de mort et de merguez. Gaza appartient bien à ces territoires que les Israéliens sont venus libérer. Or, les Arabes l'ont brûlé, pillé. Réduite à l'état de ville fantôme, vidée. Ce n'est plus qu'un immense goulag. Une femme apparaît à la fenêtre de sa maison. Elle est voilée, mais je lis dans ses yeux l'humiliation d'un sexe. Je lui souris et je devine un sourire sous l'étoffe du foulard qui la muselle. Soudain, un hurlement guttural la fait tressaillir. C'est la voix menaçante d'un homme semblant promettre le châtiment à celle qui vient de poser les yeux sur un occidental décolleté par trop provocant pour une religion qui honnit la liberté. Quelle sera la punition de cette pauvre femme? Le viol? La lapidation? Qui sait? La fenêtre se referme lourdement et j'entends des pleurs. C'en est trop. Et, défiant la plus élémentaire prudence, je hurle à la façade de cette sombre bâtisse tout mon dégoût pour l'être humain quand il se fait aussi lâche. Oh, monde cruel!
Mon cri résonne à travers les rues de la ville, qui décidément sent très fort le mouton. Sur le chemin du retour, je vois passer ce beau, ce grand, ce fier peuple d'Israël en formation derrière ces colonnes de blindés qui continuent de descendre vers le sud alors que je remonte, moi, vers le nord, vers l'Occident menacé. Un vent de liberté et de démocratie semble les suivre et s'engouffrer dans les ornières béantes que laissent derrière eux les géants d'acier qui les protègent, tels des colombes modernes. Eux n'ont pas oublié Munich et savent, comme je le sais, le prix de la liberté.
Voilà, voilà. En avant-première, un scoop de la base si j'y suis, des extraits, de larges extraits quand même, du prochain reportage que nous prépare Bernard-Henri Lévy, qui sera publié dans les colonnes du Monde. Nous n'en doutons pas. Et ce dont nous ne doutons pas, c'est que la plupart de ces extraits que vous venez d'entendre, ces deux extraits, eh bien effectivement, sont constitués, c'est Renaud Lambert qui en est l'auteur, sont constitués de véritables extraits des ouvrages et des reportages de ce grand philosophe français que le monde entier, vous l'avez entendu, nous envions. On va passer à un autre intellectuel français, c'est Stéphane Hessel, hein, que vous connaissez bien sûr, l'homme de la résistance, l'homme qui a participé à la rédaction de la déclaration des universelle des droits de l'homme, l'homme du CNR, en fait, cette vie absolument merveilleuse, éblouissante, d'engagement, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là quand on a dépassé 90 ans? 90 ans, eh bien, on continue dans l'engagement et on devient, avec le poids des ans, de plus en plus radical. Parce que le poids des ans, c'est aussi la liberté enfin de dire ce qu'on veut, ce qu'on croit nécessaire de dire. C'est pour ça que nous allons passer le reste de cette heure avec Stéphane Hessel. Là-bas, si j'y suis avec Stéphane Hessel, donc, il y a eu quelques pépins. Flight number 2,
arriving from New York. J'étais à New York au moment où on a créé l'État d'Israël.
Ah, 48.
L'année 48, à la fois, c'est mon année déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle on m'a fait parler, que comment ça s'est passé en 45, 48. Mais j'étais là aussi pour la création et pour la convention sur le génocide. Tout ça, ça a été cette année 48 qui a été prodigieusement importante. Et quand on a créé l'État d'Israël, j'avais un ami guatémaltèque, López Herarte, qui m'a dit, on vient de faire une grave erreur.
Pourquoi ?
Écoutez, vous voulez rire, après la Shoah, il fallait un État pour les Juifs, et c'était la moindre des choses, je suis très heureux qu'on ait cet État. Il m'a dit, oui, mais on a eu le tort de l'implanter dans une région, qui est peuplée d'Arabes.
Oui, puisque la phrase célèbre était
un peuple sans terre pour une terre sans peuple.
Pour une terre sans peuple, c'était le principe même du sionisme. Voilà, on est avec Stéphane Hessel, on a commencé la conversation. Et ben voilà, on est déjà dans le sujet. Je demandais à Stéphane Hessel si la première fois qu'il était allé en Israël, et voilà. Alors là, on est à la création de l'État d'Israël, et avec cette phrase qui était le fondement même du sionisme, mais en 48. Et dans les années qui ont suivi, la création de cet État d'Israël suscitait quand même un certain enthousiasme, un soutien.
Un énorme enthousiasme. Pour moi, c'était, je dirais, pour quelqu'un qui avait fait la guerre, qui avait été dans les camps de concentration, qui avait vu des Juifs venus d'Auschwitz dans un état épouvantable passer par Dora pour aller à Bergen-Belsen. J'étais donc de ceux qui disaient, il faut maintenant que des Juifs aient enfin un État. Et c'est très bien. Et comme ils sont déjà nombreux en Palestine, comme les Anglais leur ont déjà promis depuis quelque temps qu'ils auraient un foyer juif, eh bien, il est tout à fait normal que ce soit dans cette région du monde, qu'elle a l'air historiquement, millénairement, que l'on fasse un État. Mais bien entendu, il faut, et les Anglais eux-mêmes y tiennent, parce que les Anglais ont une politique arabe, il faut que ce soit divisé équitablement, une partie pour les Juifs, une partie pour les Arabes. Et c'est ça qui a tout de suite dysfonctionné, puisque tout de suite les Arabes ne l'ont pas accepté, et que, il faut bien le dire, les sionistes en ont profité pour combattre contre les Arabes, ce qui était leur droit, mais pour, du coup, prendre beaucoup plus d'espace en Palestine que ce que les Nations Unies avaient préconisé. Les Nations Unies avaient dit 55 pour les Juifs, 45 pour les Arabes, et nous en sommes à 78 pour les Israéliens et 22 pour les Arabes.
22 pour les Arabes, pour les Palestiniens, et encore, c'est pas fait du tout. On voit bien que c'est pas fait.
Absolument. Sur les 22, déjà, à peu près 15% de ces 22 sont occupés par des colonies illégales, des colonies que les Nations Unies considèrent comme illégales. En plus, le mur qui a été construit en bouffe encore une partie. Donc maintenant, la disproportion, comme on aime à dire, est énorme entre ce qui reste aux Palestiniens pour faire un jour un État, ça va être très difficile, et ce que les Israéliens ont déjà accaparé.
Et d'autant plus aujourd'hui, tout cette mise un peu en perspective que vous venez de faire rapidement, on assiste à des heures dramatiques, impuissants que nous sommes, à Gaza. Et surtout avant-hier, on a vu cette école des Nations Unies, une école des Nations Unies, qui a été bombardée par l'armée israélienne, faisant 40 morts, dont un certain nombre d'enfants. Il y a deux autres écoles qui ont été également visées. Enfin, et puis il y a ces populations civiles qui sont, on voit les images, c'est absolument dramatique, les quelques témoignages qui nous parviennent encore de Gaza, parce qu'on en a de moins en moins de l'intérieur, au fur et à mesure que les habitants perdent leurs ressources, l'électricité, les piles pour les appareils, etc., ce qui font que on a de moins en moins de témoignages qui nous viennent de l'intérieur. On sait aussi que les autorités israéliennes refusent à la presse internationale de rentrer à l'intérieur du territoire, si bien qu'on a très peu de témoignages. Comment vous, Stéphane Hessel, comment vous percevez ça? Comment vous ressentez ça?
Je le perçois avec d'autant plus d'émotion et d'horreur et de scandale que j'ai été tout récemment là-bas à Gaza avec cette excellente organisation qui s'appelle La Voix de l'Enfant et qui est encore sur place maintenant à Jérusalem, à Ramallah, essayant de garder le contact avec Gaza, et qui m'envoie régulièrement des informations sur ces horreurs que vous venez de décrire, et qui continuent, qui n'ont pas encore pris fin. Et c'est ce qui me fait dire que l'opération israélienne contre Gaza est une contre-performance absolue. À quoi va-t-elle servir? Est-ce qu'elle va mettre un terme au bombardement de Sderot et des autres localités? Est-ce qu'elle va permettre de mettre une fin à l'action du Hamas? Mais non. Mais en revanche, elle va rendre l'image d'Israël, même en France, parmi des gens qui cependant ont plutôt de la sympathie pour Israël. Ça va être de plus en plus difficile de ne pas être révulsé par la façon dont les Israéliens se comportent et l'armée israélienne se comporte à Gaza.
Vous connaissez le poids des mots, tout le monde sait que vous avez participé à l'élaboration du texte sur la déclaration des droits de l'homme ou des droits humains, enfin on connaît votre sens des mots. Le poids des mots, là, il fallait que les mots soient très précis. Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'un crime contre l'humanité, pour ce qui se passe à Gaza?
Je préfère employer le mot crime de guerre, et qui me paraît plus lié à ce qui se passe, parce que c'est faire une guerre alors qu'on n'a pas d'ennemis organisé nationalement. On ne fait pas la guerre contre un État, on fait la guerre contre des miliciens, des militants, des gens qui veulent la libération de leur territoire. Et ce genre de guerre est criminel. Nous l'avons vu au Vietnam, faite par les États-Unis. Nous l'avons vu en Russie, faite contre les Tchétchènes. C'est exactement un crime de guerre. Je n'emploierai pas le mot génocide, qui veut dire que c'est une race ou une ethnie que l'on veut détruire. Les Israéliens ne veulent pas détruire les Arabes, ils veulent détruire les Palestiniens. C'est donc plutôt un politicide, c'est un mot qui est employé d'ailleurs par mon ami Warshawski pour définir la façon dont se comportent actuellement les Israéliens.
Alors, il faut, quand on emploie un mot comme celui-là de crime de guerre, il faut être conséquent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mener une action pour que les responsables comparaissent devant une cour pénale internationale?
Ce serait absolument légitime, car les responsables connaissent le poids des mots. Ils savent ce que c'est qu'une destruction systématique organisée. Leurs ancêtres en ont été des victimes. Je ne dis pas qu'il faut comparer ce qui se passe à Gaza à ce qu'ont subi les Juifs en Allemagne du temps de la Shoah, mais la violence utilisée contre un peuple, l'impossibilité qui lui est faite d'avoir enfin cet État auquel ils aspirent depuis 60 ans, c'est vraiment un crime. Et un crime de guerre, lorsque on utilise des moyens militaires énormes, 5e armée du monde, contre une population qui n'a que des petites roquettes pour se défendre.
Notre impuissance, elle est celle aussi des Nations Unies. L'école qui a été bombardée est une école qui est sous le contrôle et sous la responsabilité, sous la gestion des Nations Unies. On sait tout le rôle de l'UNRWA à Gaza,
oui.
Et de façon permanente, les autorités israéliennes s'assoient sur les résolutions des Nations Unies. Encore tout récemment, les États-Unis, non pas les Nations Unies, mais les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui demandait un cessez-le-feu immédiat. Alors, ça, c'est les États-Unis qui mettent leur veto.
C'est un des drames, c'est que les États-Unis se sentent tellement liés à Israël, qui est leur principal allié dans la région, et dans une région où ils ont beaucoup d'ennemis à combattre. Alors, ils ont aussi des alliés, mais ils ont des ennemis. Ils tiennent à avoir Israël comme ami. Donc, ils profitent de leur situation privilégiée au sein du Conseil de sécurité, où ils disposent du droit de veto, pour protéger constamment les positions israéliennes. Heureusement, mardi dernier, ils ont changé leur politique et pour la première fois, ils ont demandé un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Il y a donc là un progrès, de même qu'il y a eu ce progrès, de demander enfin un couloir humanitaire. Nous, avec les voix de l'enfant, nous le demandions depuis 5 jours déjà. Et enfin, peut-être, cette possibilité d'apporter au moins un concours à ces malheureux. Et vous, cher Daniel Mernet, vous parlez justement du rôle des Nations Unies, l'UNRWA. L'UNRWA est responsable d'à peu près 70% des habitants de Gaza qui sont dans un nombre considérable de camps. Ça devrait être une protection. Les Israéliens n'en tiennent aucun compte.
Alors, de la même façon que Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui a publié un livre récemment, La paix, pas l'apartheid. Vous essayez d'influencer, vous essayez de donner votre point de vue, vous allez là-bas, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens, et vous dites une chose, vous dites si on a peur, si les journalistes, les chercheurs, les hommes politiques, les États, voire même l'Europe tout entière a peur, c'est qu'il y a ce chantage à l'antisémitisme. Il y a ce soupçon d'antisémitisme, il y a même parfois des accusations d'antisémitisme, et vous voyez là une des raisons de cette impunité israélienne.
Oui, je suis en effet convaincu qu'une timidité politique à l'égard de l'État d'Israël est présente non seulement chez les Allemands, qui auraient quelques raisons d'avoir encore des restes de cette timidité, mais chez tous les Européens, et il faut dire que la France elle-même, du temps de Vichy, a contribué au tort fait aux Juifs pour cette raison, au lieu de traiter Israël comme n'importe quel pays qui a des intérêts à défendre, qui doit les défendre, qui doit défendre sa sécurité, mais qui doit le faire en accord avec le droit international et avec des appuis sérieux, mais des appuis objectifs, au lieu de cela, on le considère comme un État auquel il ne faut surtout pas toucher, parce que dès qu'on dit quelque chose de négatif sur la politique israélienne, on est tout de suite traité d'antisémite. Je suis persuadé que moi-même, aux yeux de beaucoup de mes amis juifs, je frise l'antisémitisme parce que j'ose dire que la politique israélienne me paraît criminelle et stupide à la fois. Criminelle, c'est sûr, et stupide parce que l'intérêt d'Israël, l'intérêt à moyen, long terme d'Israël, ne peut être que l'existence à côté d'Israël d'un vrai État palestiniens avec lesquels ils peuvent entretenir le partenariat qui ferait de cette région du monde, de ce Proche-Orient, une zone de paix et de prospérité.
Alors vous savez très bien ce qu'on vous répond quand vous parlez comme ça en Israël, du côté de ce qu'on peut appeler les faucons. On vous dit oui, mais très bien, vous avez raison, mais il n'y a personne en face. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous, on aimerait bien faire la paix. On aimerait bien faire la paix. Mais avec qui? Et qu'est-ce qu'on a en face? Des terroristes. C'est le Hamas. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Encore tout récemment, le représentant du CRIF a dit on ne parle pas avec le Hamas.
C'est évidemment la meilleure façon de maintenir le statu quo pour les Israéliens, de dire nous n'avons pas d'interlocuteur. Rappelons que chaque fois qu'un interlocuteur s'est présenté, ils se sont rapidement organisés pour que cet interlocuteur-là n'est plus l'écoute des Palestiniens. Ils en ont suscité un autre. Quand c'était Arafat, ils ont suscité le Hamas. Maintenant que c'est le Hamas, voilà qu'ils essayent de donner la voix à Mahmoud Abbas, mais sans lui donner encore le moyen d'être au moins populaire auprès des Palestiniens, parce qu'il n'obtient rien en échange de son énorme bonne volonté. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un interlocuteur, mais on sait aussi que quand on veut régler un problème dur, il faut avoir pour interlocuteur le plus dur et pas le plus mou. C'est avec le plus dur que l'on traite. Si aujourd'hui Israël avait un contact avec le Hamas en lui disant quelles sont vos exigences pour arrêter les bombardements, quelles sont vos exigences pour traiter pour une paix entre Palestiniens et Israéliens, je peux vous dire ce que répondrait le Hamas. Je le sais par mon ami Aubin de la Messuzière, qui en a parlé avec les dirigeants du Hamas. Ils veulent le retour aux frontières de 67. Ils ne parlent plus que de façon symbolique de la destruction éventuelle un jour de l'État d'Israël. Ils savent bien que c'est complètement chimérique et ils seraient prêts à appuyer les résolutions du Conseil de sécurité, le retour aux résolutions 242 et 338. C'est comme ça que la paix peut être faite aujourd'hui.
صحي على فين يا موج الشوق مودي والريح بحس بحلم يا دنيا بلاش تصحيني على فين يا موج الشوق موديني.
Quelle est la solution pour vous, Stéphane Hessel? Vous avez déclaré quelque part la solution des deux États israéliens et palestiniens est devenue caduque.
Et j'avais malheureusement, au mois d'avril 2008, au cours d'un voyage là-bas, rencontré des gens qui me disaient « ce n'est plus possible, les Israéliens ont trop démoli ce qui aurait pu être la création d'un État, ils ont fait trop de colonies, ils ont fait trop d'occupations, ce n'est plus possible, et maintenant il va y avoir un seul État, Israël, et cet État va avoir une population dont une forte fraction se trouvera en état d'apartheid. » C'était un mot auquel je ne me prêtais pas. Et je continuais à dire non, ce n'est pas une solution. C'est pas une solution humaine, c'est pas une solution historique, c'est pas une solution politique. Il faut en revenir aux deux États. Et aujourd'hui, c'est plus clair. Et maintenant, même parmi les Israéliens, Ehud Olmert lui-même a laissé entendre que la solution des deux États lui paraissait la solution. Mais quels deux États? Alors là, nous entrons dans un autre problème. Quelles seraient les limites, les dimensions et l'organisation d'un État palestinien viable s'il ne dispose plus que d'une fraction du territoire tout étroite et qu'il n'a même pas sa capitale à Jérusalem? Aucun dirigeant palestinien sérieux ne pourra traiter là-dessus avec Israël. C'est cela à quoi les dirigeants israéliens faucons, appelons-les ainsi, et qui sont contents d'être faucons parce que ça va leur permettre d'être élus au mois de février. Le plus faucon aura le plus de chances d'être élu. Alors eux disent, oui, il faudra un jour que les Palestiniens aient quelques petits lambeaux de territoire et que nous puissions garder l'essentiel de nos colonies, notamment autour de Jérusalem. Quant à leur laisser la possibilité d'avoir leur capitale à Jérusalem, c'est pas possible. Jérusalem, c'est Israël et Israël seulement. Ils ne parlent même pas des chrétiens qui ont aussi un droit d'existence à Jérusalem.
Est-ce que c'est viable ce projet des faucons? Vous avez une expérience considérable. Vous étiez au Vietnam, vous étiez en Algérie, vous avez vécu la décolonisation, les décolonisations. On sait très bien que les peuples colonisés finissent toujours par se libérer. Alors je ne dis pas, parce que je sais très bien ce qui est déjà en train de se dire dans certaines chaumières, je ne dis pas qu'il y a colonisation des territoires, mais je dis qu'il y a un fait colonial dans les territoires. Vous êtes d'accord avec cette définition?
Absolument.
Est-ce que cet horizon est viable de réduire l'État palestinien à quelques petits bantoustans dans lesquels on pourrait faire des casinos comme on l'a fait dans les territoires indiens des États-Unis? Est-ce que c'est possible?
Si on pense que ce sera un jour accepté par un dirigeant palestinien, particulièrement Colombe, et que Mahmoud Abbas pourrait être la préfiguration. Si on pense qu'un jour ce sera acceptable par un dirigeant palestinien qui pourrait être soutenu par la population palestinienne dans son ensemble, on se trompe. On se trompe. Un tel projet, une telle façon de régler le problème, n'arrivera jamais à mettre un terme à la volonté forte des Palestiniens de continuer à se battre, de continuer à militer pour avoir un vrai État. Et ça se comprend. Ils savent trop ce que c'est que les Bantoustans. Et là, on retrouve le mot d'apartheid. Ils peuvent se dire que les Bantoustans, c'est ce qui a existé précisément en Afrique du Sud. Et que si on aboutit à des Bantoustans, eh bien alors là, oui, là, cette fois, on pourra parler d'apartheid. Et on sait qu'une apartheid se termine ou par des violences, ou par une reprise de conscience de ce qui la mène, c'est-à-dire par un changement radical dans la politique israélienne. Une véritable perestroïka, comme dirait mon ami Gorbatchev. Il faudrait que les Israéliens aient enfin conscience que cette voie vers des Bantoustans, ça ne mène à rien pour eux, à aucune sécurité pour eux, et que leur sécurité dépend de l'existence d'un véritable État.
Stéphane Hessel, je voudrais qu'on parle maintenant d'ici, qu'on revienne dans notre petit hexagone, où on s'inquiète beaucoup, on dit, oh là là, ces images sont épouvantables, on a vu la manifestation de samedi dernier, dans les rues de Paris, de soutien aux habitants de Gaza, on a vu aussi la manifestation le lendemain, dimanche, autour de l'ambassade d'Israël, à l'appel du CRIF, et je voudrais vous lire une phrase de Richard Prasquier, qui est le président actuel du CRIF.
Oui.
Il a déclaré ceci dans le Figaro du 5 janvier 2009. Je vous lis sa phrase. Je peux vous dire que 95% de la communauté juive de France est en accord avec la politique d'Israël et avec ce qu'entreprend son armée. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez d'une déclaration comme celle-là?
Je crains que M. Pasquier se trompe. Je connais beaucoup de juifs qui sont en désaccord profond, l'UJFP par exemple, et beaucoup d'autres. Je suis entouré d'amis juifs qui manifestent contre la politique actuelle du gouvernement intérimaire israélien. Mais je reconnais que la tendance naturelle des Juifs en France et d'un grand nombre d'entre eux est de vouloir d'abord soutenir ce pays, comprendre ce pays. Et il suffit que les dirigeants israéliens expliquent, comme le fait avec beaucoup de capacité, de conviction, Tzipi Livni ou Ehud Barak, que tout ce que nous faisons, nous, Israéliens, c'est de maintenir notre sécurité et de ne pas laisser 500 000 Israéliens à portée de quelques bombes et de quelques roquettes de la part du Hamas, pour que beaucoup de Juifs, peut-être pas une majorité, sûrement pas 95%, mais peut-être 50% se disent, il ne faut surtout pas dire de mal de ce pays qui nous est quand même extraordinairement proche et extraordinairement cher. Moi, je leur réponds, ce pays qui m'est aussi cher à moi qu'à vous et dont je voudrais voir le succès dans une paix et une prospérité doit avoir des dirigeants qui soient capables de comprendre que la seule solution pacifique pour eux, c'est l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël.
Stéphane Hessel, je vous remercie, mais je vais pas vous laisser partir comme ça. Là, on ne parle que de ce sujet-là, on pourrait parler de 1000 sujets avec vous, mais je sais que vous êtes célèbre pour ça, connu pour ça, pour pour votre affection pour la poésie.
Ah oui. Alors,
on va finir avec ça, et je vais vous lire quelques lignes d'un poète qui s'appelle Louis Aragon.
Ah oui, un grand poète.
Un grand poète. Le ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Très joli.
Et ça c'est d'Aragon.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'Aragon, dans cet extrait, évoque Rainer Maria Rilke, le chant triste des oies au-dessus des maisons des quais?
Peut-être que Aragon a compris le message fondamental de Rainer Maria Rilke, qui est un de mes poètes allemands favoris. Que voulait dire Rilke? Il disait, nous sommes les abeilles qui butinons le visible pour le rendre invisible. C'est-à-dire que notre rôle sur cette terre est de comprendre suffisamment ce qui nous entoure, d'en être suffisamment proche pour le préserver dans la façon dont nos vies successives contribuent à créer une invisibilité permanente de l'humain. C'est l'humain en nous, et donc je reviens par là à René Cassin et à ma déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'humain en nous que la poésie doit pouvoir sortir de sa gangue matérielle pour le rendre invisible et immortel.
Et en allemand, ça donne quoi?
Ah,
en Rainer Maria Rilke.
Non, là je ne trouverai pas un vers. Je vous propose en échange un tout petit vers de Guillaume Apollinaire, restons français, qui dans le pont Mirabeau a ces deux vers. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court, que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus, elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'allait jamais revenir.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Comme des soleils révolus. Merci à tous. Merci évidemment à Stéphane Hessel. C'est Renaud Lambert qui avait réussi à se procurer en avant-première le prochain article du Bernard-Henri Lévy qui devrait être publié incessamment sous peu, nous l'espérons, dans le journal Le Monde. Et puis samedi 10 janvier, manifestation partout en France et notamment à Paris à partir de 15h place de la République à l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez écouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Gilles Gaillard. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutier qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.